Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai oriental. J'ai refusé totalement ce qui est...
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de nous accepter chez vous. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a signé mardi 6 juin dernier un arrêté relatif au réajustement du prix de carburant à la pompe de 5%. Alors que le taux d'échange demeure instable, une certaine opinion estime que ce réajustement n'est pas nécessaire. Une autre opinion se demande ce que sont devenues plutôt les 28 mesures économiques d'urgence du gouvernement qui visent à stabiliser et relancer l'économie. Comment commentez-vous cette situation? À l'adresse pa@radiokapi.net, commentez ce sujet et participez au débat qui se tient aussi sur notre page Facebook. En direct sur les ondes des Radio Okapi, appelez-nous au 09 97 06 49 69 ou bien au 09 97 06 63 80. Mimi Kindou est à la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Meji. Ce programme est supervisé par Martin Sebujangwe et J.R. Lungembo a le plaisir de le coordonner et présenter. À vous tous, bienvenue dans cette émission.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore à tous les auditeurs qui ont posté leurs commentaires sur notre page Facebook. Et ces sujets, nous les rappelons, a atteint plus de 3000 personnes. Et merci à quelques-uns parmi vous qui ont pratiquement déjà commenté. Et nous allons découvrir les messages d'un moment à l'autre. Le temps de recevoir ou d'accueillir en ligne notre invité depuis la France pour échanger de manière citoyenne avec nous. Et professeur Tcheta Bampa Albert, il est analyste économique, il est à Paris. Bonjour professeur.
Bonjour.
Est-ce qu'à ces jours, on peut dire que la décision du ministre de l'économie, Joseph Kapika, qui venait de signer au fait un arrêté relatif au réajustement du prix de carburant à la pompe de 5%, se justifie au regard même de l'instabilité de la monnaie, disons que nous observons ces derniers temps?
Oui, en fait, le prix des carburants, puisqu'on ne peut pas bloquer à ce moment l'évolution des prix des carburants, puisque la RDC, c'est une économie exportatrice nette du pétrole. Tout ce que nous consommons comme produits pétroliers, nous ne les produisons pas. Nous ne produisons pas les produits finis du pétrole, c'est-à-dire les carburants qu'on met dans nos voitures, dans nos véhicules. Les autres produits dérivés, nous les importons. Ce n'est pas la RDC ne peut pas influencer le prix du pétrole sur le marché international. Même l'Arabie Saoudite n'a pas la capacité d'influencer éternellement le prix du pétrole sur le marché international. Donc, moi, je pense que c'est logique que le gouvernement laisse la force du marché agir.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire que cette réaction du gouvernement est un aveu d'échec autour des mesures d'urgence économique prises il y a une année pour, en fait, qui visaient donc à stabiliser et à relancer l'économie en RDC?
Je ne dirais pas qu'il y a un échec. En fait, quand une mesure économique, ce n'est pas vraiment un échec. Pas dire échec ou bien réussi, tu vois. Quand le gouvernement annonce une mesure économique, il y a le temps de la mise en œuvre, puisque ça doit passer, il y a des règles, on ne vient pas annoncer comme ça, on commence à mettre des mesures sur le terrain. Non, il y a le passage au Parlement, il y a le réglage par rapport à la loi, puisque les mesures économiques se traduisent sur le plan opérationnel par la loi. Il faut voter la loi, et tout ça, ça prend du temps. On ne peut pas dire dans un an qu'on n'a pas de résultats, c'est difficile. Mais en revanche, je pense que le gouvernement est en train de subir, au lieu d'anticiper les choses, notre gouvernement subit les événements. C'est-à-dire, là, l'État n'adapte pas d'aujourd'hui, ça date toujours de longtemps. Après, pour répondre à votre question, ce n'est pas l'échec, mais le gouvernement subit au lieu d'anticiper les choses.
Alors, parce que vous parlez de l'anticipation des choses, est-ce que on peut mettre, au fait, disons, prendre ce courage de dire que l'une des mesures qui pouvait être salitaire, celui de la réduction du train de vie des institutions publiques, y compris l'encadrement et la rationalisation des dépenses publiques, n'a pas du tout marché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gouvernements continuent à subir, par exemple.
On ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Vous savez, il y a une instabilité politique. Depuis Matata, on a trois gouvernements. On ne peut pas tenir. Puisque je prends par exemple le cas de Matata. C'était, tout le monde savait que Matata devait partir. Au mois de mars 2016, on savait que Matata, le frère Matata, ne dira plus. Mais on savait déjà, il y avait des signaux, il y avait des annonces, il y avait des comportements entre le président et avec son premier ministre. On le savait déjà, ça n'allait pas. Et puis, il y a eu le dialogue, le premier dialogue de l'OIA. Tout ça, après le dialogue, il y a eu le gouvernement de Samy Badibanga. Et de l'arrivée de Samy Badibanga, on savait qu'il ne va pas traîner. Il y a l'opposition du Rassemblement qui n'était pas d'accord avec le processus du gouvernement de Badibanga. On savait qu'il n'y avait pas d'ordre. L'instabilité politique ne pouvait pas. Avec cette situation d'instabilité politique, aucun gouvernement ne peut pas mettre des mesures efficaces pour qu'on stabilise la situation. Donc la cause principale, c'est l'instabilité politique qu'on a vécue et qu'on est en train de vivre. Et puis, je dis, une grande partie de l'opposition n'accepte pas le gouvernement de l'actuel
ministre. Alors, voilà. Oui, alors même si vous ne l'admettez pas, professeur, certains internautes qui nous ont écrit insistent beaucoup plus sur l'échec, au fait, de la stabilité du cadre macroéconomique, parce que vous évoquez d'ailleurs les gouvernements Matata 1 et Matata 2.
Oui, là maintenant, quand vous parlez de stabilité macroéconomique, disons, on fait des agendas macroéconomiques. Prenons par exemple, effectivement, il y a l'échec. Dans ce cadre-là, il y a un échec. Là, vous précisez maintenant les choses. Mm-hmm. C'est dans le plus général. Un échec, effectivement, de la lutte contre l'inflation, de la lutte contre la dépréciation. Et quand je parle des autorités économiques, le gouvernement, je parle du gouvernement politique et le gouvernement, les dirigeants de la Banque centrale du Congo. Pour moi, ce sont des responsables économiques. Les deux ont échoué à stabiliser. La situation macroéconomique. Bon. Prenons l'exemple de la dépréciation des taux d'échange qui a commencé au début de l'année 2016. Quand on regarde bien la dépréciation, on a remarqué que ça, depuis 2016, si on prend seulement de janvier 2016 à janvier 2018. En fait, moi, j'ai d'autres chiffres par rapport à mes calculs. C'est le taux de change est déprécié à peu près de 35%.
Vous savez? Tout à fait. 35%, c'est beaucoup. Et d'autres vont même plus loin en disant qu'il y a cette dépréciation autour des 40%, 40 à 45%. Parce qu'il y a eu même perte de pouvoir d'achat. Oui.
Oui, aujourd'hui, on peut parler de 40, 50, 51. Je l'ai fait la nuit, hein, 51. De janvier 2016, aujourd'hui, c'est 51%. Ça, c'est ceux qui sont d'accord. Mais on n'analyse pas la dépréciation comme ça. On n'analyse pas le jour au jour la dépréciation. Il faut prendre un temps long. Alors, pour être précis, j'aimerais qu'on parle des causes de cette dépréciation. Puisque quand on commence, tout le monde connaît qu'il y a la dépréciation. Là, il n'y a pas une valeur ajoutée de l'invité. Si moi, j'ai invité, c'est peut-être parler des sources de cette dépréciation. Et là, je me donner le temps, je vais expliquer. Bon. Excusez-moi. En fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la dépréciation. Avant de commencer de parler de dépréciation, de dépréciation, je vais parler aussi de l'inflation après. Les gens confondent toujours la dépréciation et l'inflation.
Voilà. Alors professeur, je vous proposerai de nous permettre donc d'ouvrir un peu les standards. Comme ça, on va accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Et après les avoir écoutés, nous reviendrons sur certaines précisions. Et nous rappelons, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez donc à peine, notez que vous êtes bel et bien dans l'émission Parole aux auditeurs, votre magazine. magazine d'échange citoyen, qui évoque des questions économiques aujourd'hui avec le ministre d'économie, Joseph Kapika, qui a signé mardi 6 juin dernier un arrêté relatif au réajustement du prix des carburants à la pompe de 5%, alors que le taux d'échange demeure instable. Une certaine opinion estime que ce réajustement n'est pas nécessaire. Une autre opinion se demande ce que sont devenues plutôt les 28 mesures économiques d'urgence du gouvernement qui visent à stabiliser et à relancer l'économie. Et nous insistons que cette émission, nous la dédions également à Michel Somoué, un analyste économique que nous avons pu d'ailleurs utiliser dans plusieurs fois de nos émissions sur le plan économique, qui est actuellement nommé directeur de cabinet auprès du Premier ministre. Voilà, 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 46 63 80.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Alain Bolojo, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à votre invité, bonjour à tout le monde.
Notre invité disait tout à l'heure que ça se justifie quand même le réajustement de ces prix de carburant à la pompe de 5%, mais il y a un problème au niveau sur le plan économique. Le gouvernement congolais dans le secteur subit plutôt des situations qu'il n'arrive à anticiper. Est-ce que vous partagez cet avis?
Partiellement oui. Parce que vous allez vous rendre compte que depuis quelques temps, l'économie congolaise n'est plus, ne fonctionne plus normalement. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs paramètres qui font en sorte que l'économie soit secouée. Et moi, je voudrais dire qu'il y a un problème en termes de vision, mais aussi d'articulation des actions économiques. Nous prenons, lorsqu'on parle de la stabilité du cadre macroéconomique dont on a inventé pendant plusieurs années, il y a quatre éléments essentiels que Nicolas Caldor a repris. Il y a le taux de croissance, il y a le taux d'inflation, le taux de chômage, mais aussi la stabilité ou la balance commerciale. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que l'État congolais où l'économie congolaise ne fonctionne plus normalement par le simple fait qu'il y a certains choix contradictoires qui ont été pris et qui imposent à notre économie certaines réalités qui vont à l'encontre des potentiels qu'elle a. Je prends en tant que concerne le carburant. C'est vrai que nous avons un potentiel en termes de pétrole. Malheureusement, notre production va plus dans le sens du brut où on n'arrive pas à apporter une valeur ajoutée conséquente. Et ce qui fait que nous sommes là juste comme des puits qui servent des économies des autres États et qui facilitent un enrichissement illicite de certaines personnes. Et aujourd'hui, on dit que non, voilà, le prix du carburant doit être revu à la hausse. On prend des décisions et on justifie cela tout simplement parce qu'on ne prend pas en compte tous les autres paramètres d'analyse ou les autres variables. Moi, je me dis, nous achetons déjà 1,5 $ les litres. Si on se réfère au taux de 2015, même de 2016, nous achetons à 1,5 $ les litres du carburant. Et au niveau international, on nous ressasse même dans le budget que non, voilà, il y a baisse en termes de coûts, en termes d'exploitation, tout simplement parce que le baril a baissé au niveau international. Et nous sentons ces méfaits au niveau du budget par le fait que le pétrolier producteur ont baissé leur contribution au niveau du budget parce qu'il y a baisse. Mais en même temps, on constate que le prix à la pompe augmente. Donc quelque part, il y a un problème au niveau de la structure de prix de litres de carburant. Soit il y a, au niveau international, il n'y a pas baisse ou carrément il y a baisse. Et on devait sentir les effets positifs ou négatifs sur le plan interne. Mais malheureusement, lorsqu'il y a baisse au niveau international, ici chez nous, il y a une augmentation. Alors moi, je demande au ministre de l'économie, qui est de l'opposition, de nous donner la structure de prix du carburant à la pompe, pour que nous sachions effectivement si cette augmentation se justifie. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter à parler de la fluctuation monétaire.
Oui, mais Alain,
une augmentation, une baisse.
Oui, Alain, il faut le rappeler que aujourd'hui, si ma mémoire est très bonne, nous sommes d'ailleurs à la troisième ou à la deuxième ou à la troisième augmentation de carburant à la pompe en une année, en l'espace d'une année.
Effectivement, à chaque fois on augmente de 5%. Mais s'il y a augmentation de 5%, c'est-à-dire on doit aussi sentir une augmentation au niveau du budget dans ces secteurs. Mais pourquoi dans le budget il y a baisse? Et en même temps, dans le prix sur le marché, il y a augmentation. Donc, il y a plutôt un problème au niveau de la structure de prix. Est-ce que l'État ou le ministre de l'économie ne peut pas nous éclairer sur la structure du prix à la pompe pour que nous sachions dégager la marge bénéficiaire, si cette marge bénéficiaire correspond aussi à notre législation? Parce que s'il y a augmentation, et en dollars et en francs, on peut justifier une augmentation en francs par le fait qu'il y a fluctuation de taux de change, donc on ne peut pas justifier l'augmentation en dollars. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le litre qui vend à 1,5$.
Voilà, donc si je comprends bien, Alain...
Quelque part, oui. il y a un problème de choix politique. Mmh. Il y a certainement une marge qui n'est pas justifiée, qui fait en sorte que le prix ne tient pas compte de la réalité du marché international, mais aussi du pouvoir d'achat sur le plan interne. Il y a des gens qui bénéficient de cette situation. Nous devons savoir la structure de prix, comment elle est structurée.
Merci.
Pour que nous sachions voir qui est responsable.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoa, lorsque vous évoquez quelques éléments qui sont contradictoires avec ce que venait de dire tout à l'heure l'autre invité. Mais néanmoins, je retiens que vous partagez, en tout cas, totalement l'avis selon lequel cette augmentation pourrait se justifier dès lors qu'on pourrait mettre sur la place publique la présentation des structures de prix. Mais néanmoins, vous imputez cela au choix contradictoire que prend donc le gouvernement en la matière. Merci beaucoup, Alain, d'avoir appelé. Rudy, vous êtes à Mbandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à Radio Okapi, bonjour à l'invité, bonjour aux auditeurs.
Est-ce que vous estimez, premièrement, que cette augmentation se justifie? Et deuxièmement, vous parlez comme les autres que le gouvernement n'anticipe pas la situation, mais elle subit plutôt.
Oui, c'est ça. Si le gouvernement nous parle de l'anticipation de la situation, mais le gouvernement ne songe pas des effets dominos qui se produisent, que cet ajustement du prix du produit pétrolier pourra
entraîner.
Conduire. Oui. Parce que imaginez que le prix du pétrole va augmenter, alors que cette augmentation-là va entraîner dans plusieurs secteurs. Imaginez que quelqu'un, parce que vous qui habitez peut-être la ville de Kinshasa qui n'allait pas beaucoup sentir, mais nous qui sommes à l'intérieur, où tout se fait par le moyen du carburant, pour prendre par exemple les transports en commun, imaginez ce que ça pourra faire. Maintenant, quant à mon avis, je pense que ce ne serait pas bon de continuer toujours à ajuster le prix du produit pétrolier. Mais ce serait mieux, quant à moi, de changer le régime de change que notre pays avait choisi.
Oui, Rudy, quand vous parlez de changer le régime de change, vous voulez dire quoi concrètement, parce que là, c'est nous perdons dans les nuages.
Oui, il y a toujours deux régimes de taux d'échange.
Oui.
Nous avons le taux d'échange flottant et le taux d'échange fixe. Mais la RDC a opté pour le taux d'échange flottant, où on laisse le jet de l'offre et de la demande de devises sur le marché se jouer. Mais quand on choisissait le régime du taux d'échange fixe, on allait se fixer un certain guillemet. On s'est dit, bon, voilà, dans notre pays, quelle que soit l'augmentation du taux d'échange, mais on ne pourrait pas
dépasser la barre.
Dépasser une certaine limite, un certain
la barre psychologique, donc. Voilà.
Ouais. Ouais. Oui. Donc, si on se fixait par exemple à 90, voire 95, à ce moment-là, quelle que soit la demande de devises, quelle que soit l'offre de devises, mais le taux d'échange restera un peu fixe. dans cette guillemets-là.
Voilà. Merci beaucoup, Ridi. Donc, si je comprends bien, vous évoquez l'effet domino, donc, pour dire par voie des conséquences, cette situation pourrait avoir des conséquences dans d'autres secteurs, notamment celui des transports, mais aussi la non-maîtrise de cet effet de l'offre et la demande. Donc, vous demanderez au gouvernement de repenser un peu la façon de pouvoir juguler un peu la crise en maîtrisant un peu l'offre et la demande. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir appelé de Bandaka. Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, JR. Bonjour à toute l'équipe, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre contribution,
oui? Oui, ma contribution est telle que le gouvernement venant d'arriver, il y a lieu de dire en toute honnêteté que le gouvernement vient de subir. D'autant plus que il y a eu déjà inflation et le gouvernement est entré dans ces conditions-là. Alors, ce qu'il faut déplorer, c'est quoi? En amont, il faut d'abord déplorer le fait que lorsqu'il y avait baisse de barils, baisse du coût du prix des barils, le gouvernement antérieur n'avait pas baissé les prix. C'est là où les bas blessent. Le gouvernement n'avait pas baissé les prix. On a laissé la population payer les carburants à un prix élevé. Et finalement, à un moment donné, on n'a pas eu la maîtrise de tous les paramètres qui devraient quand même justifier la maîtrise des coûts. Et on est allé alors au-delà. Ce qui n'est pas correct. Maintenant, le gouvernement, bien qu'il ait subi le coût, mais il faudrait aussi que le gouvernement soit attentif, soit prudent, parce que il a promis le social à la population. Et ce social exige une maîtrise, entre autres, une maîtrise du taux d'échange. Il exige que l'on exporte un peu plus et qu'on importe moins. Or, pour arriver à exporter plus, nous avons suivi avec les problèmes du code minier, d'autant plus que l'économie repose plus sur les minerais. Il s'avère que jusque-là, dans le secteur minier, nous n'avons pas encore bien maîtrisé les paramètres, en sorte qu'il y ait beaucoup de rentrées des devises. D'autant plus que les devises entrent soit par les exportations, et par l'apport des capitaux étrangers. Pourtant, du côté capitaux, n'en parlons même pas. Il n'y a pas d'investisseurs avec tout ce que nous avons comme insécurité, et comme on a Sapu, à l'Est, FPRI, tout ça, du côté de la province orientale. Donc, ce qui fait que il y aura toujours un problème quant à l'entrée des devises. Par conséquent, il y aura plus de sorties des devises que d'entrée, et la balance des paiements ne permettra pas à ce que les taux d'échange puissent être améliorés.
Alors Valérie, est-ce que cette augmentation se justifie?
Oui, l'augmentation se justifie d'autant plus que ils viennent d'entrer alors qu'il y a eu déjà hausse des prix. Les acheteurs, disons les vendeurs du carburant, ils achètent déjà à un prix élevé. Et par conséquent, ils ne pouvaient que eux aussi leur permettre, parce que l'État est là pour jauger en sorte que les clients et les fournisseurs tous soient aussi équilibrés. Si les fournisseurs n'arrivent pas à payer, mais à ce moment-là, nous aussi, nous ne serons pas être desservis. Mais je commençais par déplorer le fait que si au départ, on avait baissé le prix du carburant à la pompe, même si on allait augmenter, on ne serait pas arrivé à ce genre de proportions. C'est ça peut-être le problème.
Alors, quelle peut être la solution?
Oui, la solution, c'est de renforcer
l'état économique. Réfléchis par vous, voilà.
En sorte que nous puissions avoir suffisamment un matelas de devises devant nous permettre de supporter les charges. Mais si au niveau de l'entrée des devises, nous ne sommes pas encore forts, à ce moment-là, ça n'ira pas. D'autant plus que le rapport de force, le taux de change est fixé sur le marché. Le taux de change, il se fixe sur le marché d'échange entre l'offre et la demande de la monnaie. Mais si à ce niveau-là, nous avons encore des problèmes suite à des baisses, à une baisse d'exportation ou à une chute ou, je dirais, à une baisse de revenus, d'autant plus que tant qu'on n'a pas encore mis de l'ordre dans le secteur minier, l'État rapportera toujours peu qu'il fallait. Et à ce moment-là, c'est une adéquation.
Alors, en scrutant un peu les 28 mesures d'urgence proposées par le gouvernement, on a senti, comme à cette époque-là déjà, cette bonne volonté de pouvoir améliorer la situation, et surtout en son point 10, lorsque le gouvernement proposait de réduire le train de vie des institutions publiques, y compris l'encadrement et la rationalisation des dépenses publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, une année après, c'est un échec et c'est ce qui produit pratiquement de telles conséquences?
Oui, n'ayons pas honte de le dire, c'est pratiquement un échec. Les ONG me disent que c'est un échec parce que les trains d'usine n'ont même pas été réduits. Au contraire, nous avons vu que même le gouvernement ultérieur, à ces 28 mesures, ont connu une augmentation des ministères. Et par conséquent, il n'y a pas réduction des trains de vie. Les 28 mesures parlaient entre autres de la création des zones économiques spéciales. Oui. Mmh. On n'en a jamais connu. Les 28 mesures nous parlaient de la relance agricole, mais il n'y en a toujours pas. Bon, finalement, il y a lieu de croire que c'était plus un chapelet de bonne intention qu'une décision qui devrait être exécutée, parce qu'une décision, n'a pas de valeur seulement parce qu'elle a été prise, mais surtout parce qu'on l'applique. Et la volonté ainsi que la détermination des dirigeants est mesurée, non pas par une décision qu'on a coulée sur papier, mais par l'ensemble des dispositions et des dispositifs mis en jeu afin de matérialiser la décision. Merci. Donc là, c'est un échec.
Merci beaucoup, Valérie. Pour vous, vous revenez, comme disait tout à l'heure Rudy, sur l'effet de l'offre et la demande de la monnaie, et également les conséquences que cela, cette situation a pratiquement au niveau du secteur de l'économie. Et vous estimez qu'il va falloir qu'on puisse repenser un peu les choses dans le secteur pour arriver au résultat. Et vous avez même rappelé que ces 28 mesures, qui selon vous constituent un échec aujourd'hui parce qu'il n'a pas été exécuté comme il faut, c'était prise pour faire face au ralentissement de la croissance due à la chute des matières premières sur les marchés mondiaux. 09 97 06 49 69 ou bien le 09 97 06 63 80 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission Parole aux auditeurs, ce cadre d'échange citoyen avec vous, Cheta Bampa, Albert. Vous êtes professeur et analyste économique. Vous êtes avec nous et vous avez suivi les uns les autres, Alain Bolodjoa, Rudy Dembandaka et Valérie Dekindou. Il y a beaucoup d'inquiétudes également. Les uns les autres considèrent qu'aujourd'hui, c'est vrai, d'une part, cette augmentation ne se justifie pas. Dès lors que c'est vrai, il y a cette raison de ne pas prendre en compte certains paramètres qui pouvaient aider le gouvernement à ne pas subir cette situation. Est-ce que, professeur, vous partagez cet avis?
Non, je ne peux pas partager complètement cet avis, puisqu'il y a beaucoup de confusion. Écoutez, il y a notre ami, le premier intervenant, celui qui va marcher. Le premier intervenant, je pense qu'il y a un peu de confusion par rapport à ce qu'il dit. En fait, il n'accepte pas qu'il y ait l'ajustement des pouvoirs. Je vais lui rappeler quelque chose. En 2015, 2014, 2015, 2014, 2015, il y a une baisse des cours de pétrole. Après, ça a commencé au milieu des années, de l'année 2016. Ça a commencé à augmenter. On est quitté de 30 dollars le baril jusqu'au début environ de 50-55 barils. Donc, il y a une augmentation des prix de pétrole. Donc, les gens, comment est-ce qu'on achète le pétrole? On fait les commandes peut-être un an, deux ans en avance. Il y a certains pompiers, certaines entreprises ont commandé des stocks quand le prix du pétrole était faible. Il y a certains d'autres ont commandé le pétrole, le stock, quand le prix était élevé. Mmh. Alors, on ne peut pas empêcher le marché de jouer son rôle. Parce que je ne sais pas comment est-ce que le gouvernement va faire. Il y a une seule marge de manœuvre que le gouvernement va faire. Des financiers suppliques, c'est-à-dire d'aider la population, c'est-à-dire de baisser des taxes. Vous savez qu'il y a à chaque litre d'essence qu'on achète, il y a une taxe de l'État. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation de carence et de recettes publiques. Comment est-ce qu'on peut demander à un gouvernement de baisser ses taxes alors que nous avons besoin de l'argent pour financer notamment les élections? Nous avons besoin de l'argent. Et puis, je vous rappelle qu'on est au début de reprise de la croissance économique. Puisque on a connu presque un an, deux ans, une baisse des ralentissements de l'activité économique. On ne peut pas demander au gouvernement de baisser ses taxes. Donc, on laisse le marché jouer. joue ce rôle. Et d'ailleurs, je vais vous informer, quand vous regardez cette augmentation, elle n'est pas efficace, puisqu'elle n'est pas, considérable. Pourquoi ? Le prix du pétrole n'augmente pas beaucoup, puisqu'il y a les années 2010, 2009, 2011, le pétrole était aux environs du baril de pétrole de 100 dollars. Vous voyez ? Aujourd'hui, le pétrole n'augmente pas assez. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal aussi, l'ajustement. Il n'y a pas cet ajustement. Donc, pour résumer, après, ce n'est pas vraiment important, parce que moi, je ne suis pas là pour commenter si le pétrole a augmenté. Si je suis là pour expliquer pourquoi il y a ça, pourquoi, quels sont les déterminants de cette situation. Donc, aujourd'hui, pour finir à ce point d'augmentation du pétrole, le gouvernement subit, puisque nous consommons, la RDC consomme les produits pétroliers. On n'a pas les générateurs, on n'était pas influencé du cours du pétrole sur le niveau international. Le seul moyen que le gouvernement peut agir, c'est de baisser peut-être ces taxes. Or, il y a un problème aujourd'hui, nous n'avons pas assez de ressources financières, on a les ressources financières, les ressources budgétaires, les ressources de l'État. Donc, l'État ne peut pas baisser ces taxes. Bon, il y a deux autres intervenants, ils ont bien intervenu. En fait, les deux autres intervenants, ils ont parlé, des liens entre le déficit commercial et l'évolution des taux de change. Parce que celui de Tindou, il a parlé, celui de Mbandaka, si je ne me trompe pas, il a parlé de si on pouvait changer le taux.
Des taux d'échange flottants et les taux d'échange fixes, voilà.
Ouais. Je réponds d'abord à lui, puisque peut-être que. On est effectivement, les autorités monétaires, Jean-Claude Massangou, ils ont prié au président de la République qu'on adopte les taux de change flottant. Ça, c'est ce qui est annoncé officiellement. En réalité, nous n'avons pas les taux de change flottant. C'est tel que notre collègue nous a dit. Non, il n'y a pas un flottement libre à l'RDC. C'est qu'il y a un flottement dirigé. C'est-à-dire, lorsqu'il y a situation, la Banque centrale vend les devises pour poser
avec un taux directeur,
la masse monétaire nationale. Donc, on n'a pas une situation pure par rapport à ce que. Et puis, il a évoqué si on peut adopter le taux de change fixe. Non, le taux de change fixe ne peut pas adopter. Pourquoi ? Ça demande, c'est-à-dire, il y a une contrainte principale du taux de change fixe. Il faut avoir assez de réserves d'échange. Or, nous savons que notre économie dépend des ressources naturelles. On ne peut pas avoir des ressources. Et c'est ce qui fait la crise du change. Puisqu'on n'a pas assez de réserves, la Banque centrale n'a pas la quantité suffisante pour intervenir sur le marché d'échange. C'est ce que j'appelle dans le jargon technique, la Banque centrale.
Oui, qui avait même connu dernièrement des problèmes avec la baisse de réserves, devises, on l'avait annoncé officiellement, donc c'était pratiquement en dessous de la barre de 1 milliard, donc pratiquement des problèmes commençaient à ces niveaux, et puis ça s'est étendu jusqu'à aujourd'hui, donc c'est par là. Est-ce qu'on peut dire que il faut repenser un peu, parce que notre économie est aussi trop extravertie, et voilà pourquoi il y a autant de problèmes, et nous n'arrivons pas à maîtriser les cadres macroéconomiques.
Tout à fait. Et c'est cette intervention de la Banque centrale qui crée aujourd'hui, puisque là on est parti vite, puis j'allais même parler plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a, j'insiste sur ces déterminants de situation de taux d'échange. C'est cette mauvaise intervention de la Banque centrale qui crée aujourd'hui la situation d'anticipation autoréalisatrice. Parce que tous les intervenants du marché d'échange savent que la Banque centrale n'a pas suffisamment des réserves de fonds pour lutter contre la dépréciation de sa monnaie. Donc, ils anticipent. La Banque centrale est anticipée. En d'autres termes, la Banque centrale n'est pas crédible. Et c'est cette absence de crédibilité de la Banque centrale qui aggrave la situation. Vous voulez intervenir ?
Non. Vous avez parlé de l'absence de la Banque centrale qui aggrave la situation.
Voilà. C'est ça.
Donc, on peut lier cette situation également à l'absence de la Banque centrale.
Il y a aussi un phénomène, parce que ce n'est pas seulement la Banque centrale qui aggrave la situation. Ça vient aussi de l'absence ce qu'on appelle l'absence d'indépendance de la Banque centrale. C'est-à-dire, là, il y a ce qu'on appelle la dominance budgétaire. comme on est comme l'État l'État principal, l'État central n'a pas assez de ressources financières, il y avait la croissance baisse, la croissance baisse, c'est-à-dire le niveau d'impôt, le niveau d'imposition, si la recette fiscale baisse, la solution facile pour le gouvernement, c'est de vivre avec les revenus des fédérales monétaires, des créations monétaires. Comme la Banque centrale n'a pas l'indépendance du patron, elle cède facilement aux demandes, à toutes les demandes du gouvernement. C'est un moyen pour que le gouvernement finance ses dépenses publiques. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? Donc, le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème majeur, c'est notre structure de production, c'est-à-dire la balance commerciale et structurelle qui est trop déficitaire. Depuis 2003, même si le gouvernement, par exemple, en particulier le Matata, disait non, il y a la stabilité, c'est tout ça, pour être expliqué par la bonne conduite de la politique monétaire macroéconomique. Il avait même titulé que là, lui, il a confondu la théorie économique, c'est faux, il a menti. Le seul déterminant de la stabilité relative qu'on a observé depuis 2003 jusqu'en 2013, c'est expliqué par l'augmentation du cuivre. Mmh. Mmh. L'augmentation du cuivre. Il y avait des recettes qui entraient facilement. Lorsqu'il n'y a plus d'augmentation comme ça a baissé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu la stabilité macroéconomique. La stabilité macroéconomique était expliquée par la mondialisation, puisque la RDC participe au commerce international par les ressources naturelles qu'elle exporte.
Merci beaucoup.
C'est les ressources naturelles, l'augmentation, les booms des ressources naturelles qui expliqueraient la stabilité macroéconomique.
Voilà, professeur.
La politique de Matata, ou n'importe quel.
Voilà, professeur Tchétam. Professeur Tcheta Bampa Albert, vous êtes analyste économique, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps de rouvrir le standard pour la seconde fois et accueillir d'autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Et nous profitons à ce niveau pour rappeler que le débat se tient également sur notre page Facebook. Merci à vous qui avez accepté d'interagir ici au pays et à l'étranger. Vous êtes plus de 4000 déjà, comme je le vois déjà sur notre moniteur. Merci. Et Alain Évariste, bienvenue, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité de la Radio Capi, bonjour milliers d'auditeurs qui nous écoutent à ce moment.
Est-ce que vous pensez que le réajustement du prix de carburant à la pompe de 5% ne se justifie pas? Et d'autre part, est-ce que vous soutenez ceux qui pensent que le gouvernement est en train de subir au lieu d'anticiper?
Merci beaucoup. Je dirais que la situation actuelle de notre pays nous pousse à faire des analyses approfondies, et surtout si dans ces domaines de l'économie. Avant d'attaquer les conséquences, on a d'abord, au préalable, attaquer les causes. Si aujourd'hui, nous passons à cette émission par rapport à l'inflation, du taux d'échange dans notre pays, vous imaginerez, je vais intervenir ici sur deux volets. Le pouvoir d'achat du consommateur. Nos parents sont payés dans quel taux? C'est le taux de 92. Aujourd'hui, le taux d'échange ne cesse que galoper du jour au jour. Aujourd'hui, si le ministre, comme il vient de réajuster à 5% le prix de
carburant à la pompe.
Des lubrifiants au niveau de pompes. Vous ne voyez pas que ça va causer des conséquences graves du côté des consommateurs, puisque le pouvoir d'achat, le consommateur ne sera pas à la hauteur de s'approprier d'acheter de ses produits. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, moi, j'aurais souhaité que le ministre, avant de prendre cette mesure, associe la représentation patronale pour discuter sur base des prix d'un litre d'essence au niveau de la pompe. Quand bien même que l'ordonnance de loi de 1983 donne des exceptions au ministre de l'économie de fixer le prix des produits tels que l'électricité, le carburant, autres. Mais le ministre devrait associer la représentation patronale pour essayer un peu de trouver une solution qui profiterait d'un côté des consommateurs et de l'autre côté des opérateurs économiques. Puisqu'aujourd'hui, si le pouvoir, comme la population ne sera pas à la hauteur d'acheter les produits, alors automatiquement, l'opérateur économique peut pratiquer certaines pratiques abusives telles que la rétention et la détention des stocks en vue de créer la rareté sur le marché. Vous voyez, tout ça, il y a une cause qu'on doit d'abord trouver une solution.
Donc, voilà, merci beaucoup Alain. Voilà, Alain, parce que vous posez la question de savoir si jamais le ministre a pris la décision seul, et vous avez évoqué d'ailleurs la loi qui lui donne cette attribution, mais il y a également cette commission tarifaire qui existe, qui, au fait, en dernier ressort, décide sur l'augmentation ou non de cette de prix de produits. Ben à ce niveau, c'est vrai, les uns les autres s'inquiètent parce que c'est la troisième fois que les opérateurs pétroliers sont montés au créneau pour réclamer l'augmentation au regard de la situation économique qu'ils observent, parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à ce qu'ils vivent. Alors vous craignez qu'il y ait cet effet d'attentisme, parce que bon, on ne trouvera pas leur compte, les opérateurs économiques pourraient verser rapidement dans les rangs des commerçants ou des opérateurs véreux. Merci beaucoup Alain Évariste d'avoir appelé de Mbandaka. Adrien, vous êtes à Kananga, vous nous avez également rejoint. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour cher Lungembo, bonjour à tous les amis auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, merci JR de la parole que vous m'accordez. Je pense que par rapport à cette situation, c'est d'abord regrettable parce que là, nous constatons que le gouvernement ne parvient pas à protéger sa propre population. Donc, il est en train de se comporter comme un gouvernement gendarme et non comme un gouvernement moderne. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à la situation, il faut relever quatre conséquences que nous sommes en train de subir par rapport à cette augmentation du carburant à la pompe. Premièrement, c'est la conséquence d'une extraversion d'une économie. Donc lorsque vous avez une économie totalement extravertie, vous serez tout simplement l'objet donc de subir tout mouvement qui se passerait de l'autre côté. Deuxième conséquence, c'est la conséquence de la non-production d'une économie lorsque nous ne produisons absolument rien. Donc nous sommes à la merci de chaque mouvement et de chaque vent. Troisième conséquence, c'est la conséquence d'une politique attentiste, c'est-à-dire au lieu d'anticiper les choses, comme on l'a toujours bien dit, gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas toujours être surpris à chaque occasion, et pourtant, sous d'autres cieux, il y a ces gouvernements-là qui prévoient, hein, qui sentent que non, il y a un danger imminent. Il faut maintenant prendre des précautions pour voir comment est-ce qu'il faut protéger la population. Cette population qui est d'abord meurtrie, avec ce que mon prédécesseur venait de dire, avec une inflation qui ne dit pas son nom, et le gouvernement incapable d'adapter le salaire donc de la population par rapport à cette inflation. Ce qui fait que la population est triplement abattue. Hein. Il y a augmentation, cette augmentation-là a beaucoup de conséquences sur beaucoup de secteurs. Maintenant, comment est-ce que la population peut faire face avec ces salaires-là qui gardent toujours donc l'ancien taux? Donc, voilà.
Alors, Adrien, là, ça relance quand même le débat sur les 28 mesures d'urgence du gouvernement sur le plan économique. Lorsque on insistait pour stabiliser et relancer l'économie, est-ce que vous avez un commentaire sur ça?
Oui, je pense que les commentaires, on ne peut pas relancer l'économie en parlant comme ça, en acte. Donc pour passer en acte, il faut revoir la politique économique congolaise, donc sur toutes ses facettes. Parce que lorsqu'on pourra déjà inculquer cette politique-là à la population et au gouvernement lui-même, parce que c'est le gouvernement de mettre cette politique en application. Mais au jour d'aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression, le gouvernement est en train de vouloir une chose et son contraire. Comment comment pouvons-nous relancer la situation économique lorsque il n'y a aucun effort fourni par le gouvernement pour aider la population là, à relancer? Parce que sous d'autres cieux, comme je le disais et j'aime toujours le dire, vous allez prendre compte que l'agriculture est considérée comme une priorité des priorités. Mais dans notre pays, on est en train de se battre sur le minerai, croyant que non, les minéraux sont éternels. Et pourtant, chez nous, il y a même là où on exploite du pétrole, mais la population ne sent absolument rien. Mais si on canalisait tous les efforts sur l'agriculture, hier, croyez-moi, vous allez vous rendre compte que ça sera une impulsion automatique. Donc, ça ne sera pas mécanique, tout simplement. Donc, moi, je pense que c'est un chapelet de bonnes intentions de la part du gouvernement, mais en acte, le gouvernement doit prêcher vraiment pour...
Merci beaucoup, Adrien. Je reviens à vous, professeur Tcheta Bampa Albert, à la liste économique. Et vous intervenez depuis Paris, et là où vous êtes. En croire un peu, les débats, disons, comment évoluent les débats, on se rend compte qu'il y a risque quand même que cette situation ne se pérennise sur une durée. Alors que faire pour que finalement on puisse mettre toutes les batteries afin d'arrêter cette hémorragie? Parce que les économistes avaient quand même prédit à un certain moment que les taux, disons, d'échange allaient la monnaie allait se déprécier. Nous étions au mois d'août, au mois de mars de l'année 2016, et que ça allait s'étendre sur une durée. Et voilà que nous y sommes. C'est comme si, il n'y a pas eu de mesures pour arrêter vraiment cette hémorragie.
Je dois être clair avec vous. Il y a eu des annonces de mesures, mais aucune mesure n'a pas été mise en œuvre. Même quand vous lisez, même quand vous suivez les bases, c'est vous qui étiez les rapporteurs de la Troïka. Il a annoncé seulement des mesures. Il y a une seule mesure que moi, je ne suis pas d'accord avec, c'est administrer le prix. On a remarqué que le gouvernement a administré le prix du pétrole, a administré le prix à la fin de l'année, a administré le prix des denrées alimentaires. Et ça, ce sont des mauvaises mesures. Ce sont des mesures aussi qui aggravent la situation. Pourquoi? Le prix administré représente une proportion relativement importante dans l'indice du prix à la consommation, à un impact non négligeable sur le niveau d'inflation. De telles mesures constituent sans aucun doute un frein à la transmission de la politique monétaire, parce que une part importante des prix régulés entraîne l'inertie à l'inflation. Depuis que le président a annoncé ces mesures l'année passée, la mise en œuvre de ces mesures. Il a annoncé, par exemple, on doit biaiser un peu l'ouverture à l'économie, c'est-à-dire on va favoriser les créateurs d'entreprises congolaises,
les investisseurs,
étrangères. Mais ça, ce n'est pas une mesure qui a été mise en œuvre, c'est une annonce. Tous ces 24 et 28 mais vous pouvez vérifier, n'ont pas été mis en œuvre, sauf qu'on a administré le prix. Et je vous ai expliqué ici pourquoi ces mesures n'ont pas été mises en œuvre, c'est l'instabilité gouvernementale. Je ne parle pas de stabilité politique que tout le monde connaît, l'instabilité gouvernementale. Le gouvernement Matata, un parti qu'on n'avait pas le gouvernement, Samy Badibanga a été nommé, il n'y avait pas le gouvernement. Après, ce gouvernement a commencé à travailler pendant seulement 100 jours. Un gouvernement ne peut pas réformer, sachant qu'ils vont quitter, un gouvernement ne peut pas réformer. Il y a cette instabilité gouvernementale. Et bien, on a passé aussi quelques mois sans gouvernement, et que après la démission l'annonce du président que le gouvernement Badibanga sera remplacé par un autre gouvernement, il n'y avait pas de gouvernement. Est-ce qu'un ministre peut faire mener une réforme? La réforme, ça doit être expliqué, ça doit être pensé, et ce n'est pas comme ça, on décrète la réforme, on commence. Non. Et puis, quand il y a les réformes, ça c'est notre chef, quand les gens doivent comprendre, quand on annonce une réforme, et les effets des réformes, ça peut prendre même 3, 4 ans, 5 ans. Et ça pense que la réforme aujourd'hui, et directement on commence à sentir les effets des réformes, c'est fort. Il y a un temps pour arrêter des réformes, la mise des réformes. Il y a 5 étapes pour qu'on commence à sentir, au moins, il y a une réforme. Moi, j'arrête à ce niveau, mais je voulais revenir sur quelque chose de très important. Vous venez de me dire quelles sont les solutions. Je vais parler d'abord du problème de notre ami de Mbandaka, qui a parlé
de changer le régime de taux d'échange.
Il a raison, mais sauf que sa solution sa solution n'est pas valable. Les régimes qu'on peut demander aujourd'hui, c'est de changer, de quitter notre régime fortement dirigé et de laisser les marchés d'échange évoluer sans l'intervention de la Banque centrale. Et cela nous épargnerait d'utiliser nos stocks de réserves qui sont essentiels, des réserves d'échange.
Oui, mais ça impliquerait logiquement aussi la révision de la loi sur la loi des finances ou également la loi sur les banques.
Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir. J'admets qu'il y a une difficulté de savoir a priori si une modification des régimes de change aura une influence décisive sur l'ajustement. C'est la raison pour laquelle les choix du régime de taux d'échange ça doit être travaillé, puisque Daniel Moukoko-Samba, professeur d'économie et de politique, il était ministre du budget. Il n'est pas d'accord avec ma solution. Je me dis, bon, ça ne sert pas à tout consommer. Moi, je mélange le document pur avec la dollarisation. Là, on traitera un autre sujet, c'est un autre sujet. C'est-à-dire, lorsqu'on mélange des solutions, on aura d'abord à prendre avec la dollarisation, le gouvernement congolais aura la capacité, doit accueillir ce qu'on appelle la discipline budgétaire. La discipline budgétaire, on va utiliser la monnaie étrangère, on doit pouvoir se conformer par rapport aux États-Unis. Et si on laisse, du coup, le taux d'échange va fluctuer au gré du marché. Nous n'aurons plus besoin, la Banque centrale n'utilisera plus ses réserves et le prix des réserves qu'on a à utiliser. On va laisser ça sur le réseau marketing, c'est-à-dire on donne aux entreprises qui échangent, qui participent au commerce international, et il y aura suffisamment de réserves. Et puis, on doit accompagner cette réforme avec des mesures. Il y a d'autres intervenants qui parlaient de la diversification de l'économie, puisque notre économie elle est basée sur les ressources naturelles. Il y a un intervenant qui a parlé de développer les secteurs agricoles. Mais là aussi, je veux dire, on ne développe pas les secteurs agricoles d'un seul coup comme ça, puisque le gouvernement Matata a pris un mauvais choix. Je reviens encore sur Matata. Il a pris un modèle de comment on appelle ça, Bukanga
Lonzo,
un modèle qui n'est pas approprié avec le modèle économique, avec la situation économique. Il aurait dû investir sur le village, c'est-à-dire construire des routes entre les villages et permettre qu'il y ait des productions des agricoles qui traînent dans les villages, dans les cités. Quand vous partez à l'intérieur du pays, le Kassai, le Maniema, le Kisangani,
Goma, voilà, donc à l'est.
Il y a seul moyen, puisque nous vivons dans, nous n'avons pas assez de ressources. La seule façon de faire, d'investir, on choisit un secteur. Par exemple, aujourd'hui, un déficit de secteur d'infrastructures de transport. On loue nos ressources à 80% au transport. Et vous verrez, il y a des stocks, des riz, des bananes, des pondous et d'autres produits qu'on exporte aujourd'hui qui sont produits à l'intérieur du pays. Donc, on a loué seulement une quantité suffisante de notre budget en construisant des routes. C'est tout. Puisqu'on n'a pas assez de ressources pour construire des écoles, en même temps construire les routes, construire en même temps les avions, les aéroports, non, on a un seul objectif. On peut allier une grande quantité de ressources en construisant des routes, en même temps, pas nécessairement, surtout miser sur l'électricité, la électrification du pays. Voilà.
Voilà, merci.
La première mesure. La deuxième mesure, puisqu'on parle de l'inflation, puisque là on a mélangé beaucoup de choses, on parle de l'inflation, de la
dépréciation.
De l'inflation et de la dépréciation. Répond sur le plan de l'inflation. Il y a une seule mesure qui peut être prise immédiatement, qui ne coûte pas assez d'argent, qui ne coûte même pas d'argent, justement, la Banque centrale, le ministre des Finances, utilise ses chercheurs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'inflation, on ne sait pas dans tous les pays au monde. Il faut séparer ce qu'on appelle l'inflation structurelle et l'inflation globale.
Alors, professeur, professeur, on revient à vous d'un moment à l'autre. Comme ça, on pourrait marteler un peu sur l'inflation structurelle, afin d'éclairer un peu la lanterne des uns des autres. Le temps pour nous de rappeler aux uns aux autres, en tout cas ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, qui peuvent également composer les 09 97 06 49 69. Je répète, 09 97 06 49 69 ou encore le 09 97 06 63 80 pour les interventions en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, une fois encore, merci. Et nous retrouvons les auditeurs qui sont en ligne. Et Ismaël Lumbashi, Jean-Pierre Akananga. Nous rappelons que le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a signé mardi 6 juin dernier un arrêté relatif au réajustement du prix de carburant à la pompe de 5%. Alors que le taux d'échange demeure instable, une certaine opinion estime que ce réajustement n'est pas nécessaire. Une autre opinion se demande, c'est que sont devenues les 28 mesures économiques d'urgence du gouvernement qui visent à stabiliser et relancer l'économie. Et comment vous commentez-vous cette situation? Vous avez suivi les uns les autres qui ont fait des propositions. Rudy qui parlait de changement du taux du régime de taux d'échange, de quitter par exemple le taux d'échange flottant pour les taux d'échange fixe. Et juste après, notre invité a proposé plutôt que le taux d'échange dirigé par la banque centrale ne puisse plus être d'actualité ou être utilisé. Et repenser cela, ça pourrait peut-être apporter un souffle, aussi un souffle de soulagement. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi et Jean-Pierre à Kananga. Bienvenue dans cette émission. Ismaël, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bah, à mon niveau, je pense que tout celui qui cherche à devenir ministre, ou celui qui est ministre, cherche à accommoder chaque chose de sa façon. Tenez que quand on fixe les prix du carburant, mais le reste des choses telles que les arrêts d'arrêt alimentaire, parce que les commerçants et les autres vont se plaindre dans les jours à venir. À mon humble avis, c'était juste qu'on devait d'abord chercher à stabiliser l'économie plutôt que diriger par les tâtonnements. Vous voyez que quand on dirige l'économie par les tâtonnements, on ne peut rien faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vivait à 93, et nous sommes à 147 au prix d'échange de devises par rapport au franc congolais. Cela n'échangerait rien plutôt que certains commerçants pourront se réclamer parce qu'ils ne pourront jamais se stationner. En plus qu'on est commerçant et en plus on est encore politique, ça cause plus aussi de problèmes. À mon niveau, je pense qu'on devait d'abord faire l'évaluation et stabiliser, soit analyser ce qui est présentement plutôt que faire la prévision de ce qui pourrait venir. Mais quelle sera la situation ou quel sera aussi le taux de dollars par rapport au franc congolais dans les jours à venir? Mais élever d'abord le prix du carburant et augmenter d'abord ce prix-là, c'est favoriser d'abord ceux qui travaillent dans ce secteur. Plutôt qu'on devait chercher les moyens par lesquels on devait stabiliser d'abord l'économie. Quand l'économie n'est pas stable, ce n'est que tout ce que nous allons avoir, parce que ceux du carburant pourront se réjouir dans les jours à venir. Mais ceux qui travaillent dans d'autres secteurs, ils vont avoir aussi des grincements dedans, et les arrêts alimentaires vont augmenter les prix, et nous n'aurons pas de succès.
Oui, si
nous
je comprends bien, Ismaël, c'est vrai, vous avez fait des propositions pour demander au gouvernement de fournir un peu beaucoup d'efforts pour stabiliser quand même la monnaie. Vous craignez que l'augmentation du prix de carburant à la pompe puisse avoir un effet domino, comme le disait d'ailleurs un des auditeurs qui vous a précédé. Demain, jusqu'après demain, on verra peut-être les taximens aussi dire, ben voilà, cela a un effet sur le coût des transports, il faudrait qu'on puisse revoir. Et cela, je m'excuse, aura également des conséquences sur, par exemple, les commerçants qui vont travailler sur l'évacuation de leurs produits. Et cela aura aussi un impact sur les autres charges qui pourront s'ajouter dans leurs activités. Merci beaucoup, Ismaël, d'avoir appelé de Lubumbashi. Et Jean-Pierre, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, monsieur. Aussi, bonjour à tous les auditeurs dans Radio Capitale, monsieur, ces derniers temps. Et puis, je suis ravi que vous m'avez accordé la parole en ce jour. Alors, pour la contribution, je m'en vais vite rappeler l'essentiel sur mon commentaire sur la page Facebook. Et je pensais que l'occasion n'était pas opportune de pouvoir réglementer, donc réajuster le prix de la pompe, de l'essence sur le,
à la pompe. Oui.
Donc, je vais maintenant prendre la première contribution. Ici, nous sommes sur la réglementation de marché. Et vous voyez, par exemple, lorsque nous recourons maintenant au taux d'échange, nous mettons en tête que tout ce que le ministre a pris comme décision ne vaut pas de la valeur. D'autant plus que, si vous remarquez bien, le salaire des employés et des employeurs ne correspond surtout pas. Prenons le cas du genre, nous exportons et puis nous importons plutôt les biens à partir de l'étranger. Et que nous arrivons sur le terrain, nous apprenons par exemple que le ministre a fixé une mesure qui réglemente la diminution, la réduction du prix des biens que nous avons achetés à l'étranger. Cela ne vaudra pas, ne pourra pas nous valoir et ne pourra pas nous donner l'occasion de pouvoir continuer avec le commerce. De même avec l'augmentation du prix du carburant dont il est question, moi je m'en vais dire que le ministre a pris une décision qui n'est pas inopportune. D'autant plus qu'on n'a pas encore réglementé d'abord les salaires des travailleurs et cela fait causer encore beaucoup plus de dommages sur la vie au quotidien. C'est ainsi ma contribution.
Merci beaucoup. Alors on revient à vous, professeur Tieta. Vous avez suivi, c'est vrai, il y a également la réglementation du marché d'échange. Est-ce que vous avez une orientation à donner à cet auditeur?
Pardon, vous pouvez répéter la question?
Alors, je disais tout à l'heure, il y a Jean-Pierre qui évoquait le marché d'échange qui doit être aussi repensé. Voilà. Est-ce que vous avez une orientation à donner à son intervention?
Mais c'est ce que j'ai dit. Il faut laisser les marchés œuvrer librement. C'est la seule solution que je vais vous proposer aujourd'hui. Puisque si on intervient, nous n'avons pas. Je répète, c'est mon idée. C'est-à-dire, les réserves internationales de la RDC restent inférieures au niveau requis internationalement pour protéger notre économie. Voilà, avec le choc hydrogène. Le bas niveau de réserve est la conséquence des déficits durables de la balance des transactions courantes. La dépréciation des taux d'échange. Et si on ne comprend pas la source, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas proposer. La dépréciation des taux d'échange est dès lors déterminée par les déficits de la balance des transactions courantes et par les chocs inflationnistes créés par une correction durable, brutale d'une monnaie fortement sous-évaluée menaçant la stabilité financière. C'est-à-dire le premier déterminant de l'inflation aujourd'hui, de dépréciation, c'est le déficit de la balance commerciale. Ensuite, le mécanisme de flottement, là on revient, c'est par rapport à votre auditeur, le mécanisme de flottement dirigé que nous avons aujourd'hui depuis 2003, dirigé de la RDC, que moi je considère comme le rencontre de la mauvaise technique d'intervention de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange, qui consiste à vendre, là vous m'écoutez le message, qui consiste à vendre les réserves internationales pour soutenir les taux d'échange et la position extérieure des banques, alors que les stocks de réserves deviennent presque nuls. Dans ce contexte, la stabilité du taux d'échange ne peut pas être durablement maîtrisée. Or, malgré que les stocks de réserves soient limités, on est en crise d'échange aujourd'hui, les gouvernements congolais préfèrent perdre des réserves plutôt que de laisser se déprécier les taux de change.
Voilà, professeur Tieta. Voilà, professeur Tieta, c'est par ce mot que nous mettons un terme à cette émission. Nous rappelons que vous êtes professeur Tieta Bampa Albert, analyste économique, et vous intervenez depuis Paris. Merci de votre disponibilité. Merci à tous les auditeurs qui ont échangé de manière citoyenne dans cette émission depuis le début jusqu'à la fin, et merci aussi à tous les internautes qui ont eu le temps d'interagir sur notre page Facebook. On ne peut pas se quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production et à la réalisation de cette émission, Mimi Kindou, Pierrot et la Magie. Ce programme vous a été supervisé par Martin Sebujangue et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt pour un autre numéro.